Suggestion, c'est que Pascal Clarke se présente comme maire verte aux prochaines élections municipales. Il est absolument évident qu'elle sera élue au premier tour.
Excellente idée.
Voilà. Alors Jean-Luc Benhamia s'en a parlé assez vertement, ce qui est logique, et puis plus ambiguement. De quoi ? Du boycott. Et c'est le mot boycott que je vais aborder. Les conflits sociaux qui se multiplient en France ces temps-ci sont comme tous les conflits. Ils entraînent un ensemble d'opérations destinées à affaiblir ou à faire plier l'adversaire. Parmi les répliques aux décisions de licenciés ou aux politiques salariales par trop mesquines, il y a évidemment la grève et la manif, activités suffisamment pratiquées en France au point d'être considérées par certains un véritable sport national. Mais voici qu'on entend parler à nouveau de boycott ou boycottage, mesure qui fonctionne assez bien, semble-t-il, dans les pays anglo-saxons, mais ne semble pas correspondre au caractère latin. Boycotter, c'est non seulement refuser d'acheter un produit, mais surtout gêner ou empêcher une activité par une sorte de mise en quarantaine collective. Le mot a été créé en Irlande dans le contexte des conflits permanents entre les riches propriétaires terriens du 19e siècle, souvent des Anglais, et leurs fermiers et métayers irlandais. Ainsi, le capitaine Charles Boycott, qui refusait obstinément de baisser les contributions exigées de ses fermiers, se trouva isolé, la population locale refusant d'avoir le moindre rapport commercial avec lui. On ne lui achète plus rien, on ne lui vend plus. Boycott est mis en quarantaine à l'automne 1880, et traiter quelqu'un comme Boycott devient proverbial, en anglais d'abord, to boycott, puis par la presse dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. On dit boycotter en français dès 1880. À quel point ça est allé vite, mais le boycottage ou boycott n'est pas devenu pour autant l'arme sociale absolue. Peut-être parce que boycotter une entreprise ou un producteur demande une discipline collective qui contrarie les habitudes et la liberté individuelle de décision. En outre, pour boycotter, par exemple et au hasard Danone, il faudrait identifier tous ces produits, ce qui n'est pas simple. Alors que les boycotts anglo-saxons peuvent être efficaces, on ne cite en France qu'un exemple de boycottage réussi, mais justement, il concernait un type de produit, le veau aux hormones, et non pas un producteur identifié. Le capitaine Boycott, propriétaire exploiteur autant qu'exploitant, était une cible bien reconnaissable, mais nos multinationales globalisées sont des nébuleuses difficiles à viser. Nous vivons dans un monde capitaliste, où quelques gros messieurs boycottent règlent le jeu. Sans rien révolutionner, on peut tout de même leur demander d'être corrects et beaux joueurs. Et si on ne crie pas « accouche boycott », c'est simplement parce que ça ne fait pas écho.
Bonjour Philippe Bertrand.
Bonjour.